Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Nos droits de propriété face à la spoliation de terrains relevant du domaine public de l'État ou des parcelles des particuliers. Nous en parlons dans ce magazine de promotion de vos droits et devoirs avec Edmond Mbokolo, substitut du procureur de la République au parquet de grande instance de Kisangani, chercheur et enseignant à l'université de Bandaka. Quelle est la procédure d'acquisition d'une parcelle et par où doit-on commencer? Comment faire face à la spoliation des terrains relevant du domaine public? Nous le saurons tout à l'heure avec ce magistrat. Excellente écoute à tous. Pour illustrer ce dont nous parlons, voici quelques exemples d'espoliation. La famille Papayanos avec un de ses enfants, Sophiadis Sophios Constantinos.
C'est pour pouvoir dénoncer la spoliation qui a lieu à Kinshasa, parce que quand la justice dit le droit, mais l'administration viole la loi, ça devient compliqué. Donc malgré des décisions irrévocables rendues en faveur de la veuve Papayohan Ovlissidis Cléo, elle voit sa propriété réattribuée à tort, d'émettre un certificat d'enregistrement en faveur de la caisse d'épargne de crédit de production kimbanguiste, se baser sur un arrêt, mais cet arrêt malheureusement n'a jamais fait lieu à donner ou à octroyer des droits immobiliers à la caisse d'épargne.
Qu'est-ce que vous attendez de la justice?
Que le droit soit respecté, que les décisions judiciaires en faveur de la propriétaire soient respectées et qu'elles soient remises dans ses droits.
Maître Ntoum.
J'interviens pour le compte de M. Mbenga Ndombasi Simba Willy, colonel de la police, victime d'une destruction méchante orchestrée par le ministre provincial à l'embellissement de la ville, environnement et propriété. Au fait, M. Willy a acquis une parcelle sur la 13e rue, quartier industriel, depuis 1990. Il a obtenu le premier contrat en 1992. Ce contrat a été renouvelé en 1995. Il a fait le parcours normal jusqu'à obtenir en 2018 un certificat d'enregistrement et en plus, il a obtenu la carte biométrique des propriétaires. Mais un de ces quatre matins, en date du 3 avril, un samedi, à 3h du matin, le ministre est descendu sur la 13e rue avec un tracteur. Il a rasé la parcelle de mon client sous prétexte que la parcelle se trouve sur l'emprise publique.
Qu'est-ce qu'un droit de propriété? Après avoir suivi ces témoignages, nous recevons à présent Edmond Mbokolo, substitut du procureur de la République.
Le droit de propriété est un droit de l'homme dans la catégorie des droits socio-économiques garantis par la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo à toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public. Partant de son fondement, il faut souligner que deux articles de la Constitution protègent d'une part les biens des privés et d'autre part les biens publics. L'article 34 constitue un droit, tandis que l'article 64 est non seulement un droit, mais également les devoirs imposés à tout citoyen. D'abord, l'article 34 prévoit que la propriété privée est sacrée. L'État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente. Ensuite, l'article 64 de la même constitution prévoit comme devoir, tout Congolais a le devoir de protéger la propriété, les biens et intérêts public et de respecter la propriété d'autrui. En droit congolais, le texte de base sur la propriété est la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 relative au régime général de biens, régime foncier immobilier et régime de sûreté tel que modifié et complété par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980. La propriété est définie par l'article 14 de la loi foncière comme étant le droit de disposer d'une chose d'une manière absolue et exclusive, sauf les restrictions qui résultent de la loi et des droits réels appartenant à autrui. À ce sujet, lorsqu'un bien appartient à deux ou plusieurs personnes, on parle de la copropriété. Ainsi donc, le droit de propriété confère à son titulaire ou à son propriétaire trois attributs traditionnels sur la chose déterminée et présentée par leur terme latin quesson, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, la propriété, lorsqu'on est propriétaire, on doit avoir les trois attributs suivants. Il y a d'abord l'usus, qui signifie droit d'usage. Donc, il consiste à se servir de la chose. Le deuxième élément, c'est le futus. Le futus, c'est le droit de percevoir le revenu de la chose, soit par des actes matériels, soit par des actes juridiques. Et à la fin, nous avons le dernier élément, c'est l'abusus. Il s'agit du droit de disposer d'un bien. Exactement, il s'agit du droit reconnu au propriétaire de disposer de la chose sur laquelle il exerce un droit de propriété, soit de l'aliéner, de la consommer, de la vendre, de la détruire ou de l'abandonner. Donc, lorsqu'on est propriétaire, on doit avoir le droit d'usage, on doit avoir le droit de percevoir les fruits et on doit avoir le droit de disposer de son bien. Lorsqu'une personne n'est pas propriétaire, il peut avoir le droit d'user. Il peut avoir le droit de percevoir les fruits, mais il n'a pas la bouse, c'est-à-dire le droit de disposer de la chose.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi.
Comment acquérir un titre de propriété?
Les articles 49, 50, 51 de la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 prévoit que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par donation entre vifs, par testament, par succession, par convention, par le travail de l'esprit, le travail artisanal et le travail industriel, par l'accession, par l'incorporation, par la prescription acquisitive, par l'occupation des choses perdues et par la découverte d'une chose. Alors, pour acquérir une parcelle, il faut souligner qu'en droit foncier et immobilier congolais, un particulier, personne physique ou morale, ne peut être propriétaire d'une parcelle, étant donné que les articles 9 alinéa 1er de la Constitution, combinés avec l'article 53 de la loi foncière, prévoit que le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Et l'État exerce à cet effet une souveraineté absolue et permanente. Donc, le particulier ne peut bénéficier de parcelles ou terres en République démocratique du Congo que sous forme de concessions, comme l'affirme bien l'article 9 alinéa 2 de la Constitution et l'article 57 de la loi foncière. L'article 61 de la loi foncière définit la concession comme étant le contrat par lequel l'État reconnaît à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale, des droits privés ou publics, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la loi foncière et ses mesures d'exécution. On distingue alors plusieurs types de concessions. Nous avons la concession perpétuelle. La concession perpétuelle, c'est le droit que l'État reconnaît à une personne physique de nationalité congolaise de jouir indéfiniment de son fonds. C'est le droit que l'État reconnaît à un Congolais de jouir d'une parcelle, d'une terre, indéfiniment. C'est pour laquelle on délivre un contrat de concession perpétuelle ou un certificat de concession perpétuelle. Donc, un étranger ou une personne morale de droit congolais ou de droit étranger ne peuvent pas bénéficier de la concession perpétuelle. Et nous avons une concession, nous avons aussi des concessions ordinaires. Elles sont nombreuses. La première concession ordinaire, nous avons l'amphithéose. L'amphithéose, c'est le droit d'avoir la pleine jouissance d'un terrain inculte appartenant à l'État, à la charge de mettre et d'entretenir le fonds en valeur et de payer à l'État une redevance en nature ou en argent. Et lorsque l'État fait bénéficier à une personne un droit d'amphithéose, la durée maximale est de 25 ans renouvelable. Si la superficie est le droit de jouir d'un fonds appartenant à l'État et de disposer des constructions, bois, arbres et autres plantes qui y sont incorporées. Le droit de superficie est de 25 ans renouvelable. L'usufruit est le droit pour une personne d'user et de jouir d'un fonds, comme l'État lui-même, mais à la charge de conserver ses biens à son état. Et le contrat d'usufruit, c'est aussi pour 25 ans. L'usage est le droit que l'État reconnaît à une personne de jouir soi-même avec sa famille, soit à y habiter, soit à y créer des entrepôts pour soi-même. L'usage est de 15 ans renouvelable. La location, c'est lorsque l'État s'oblige à faire jouir une personne d'un terrain et moyennant un certain prix que cette personne s'oblige à payer. Et en principe, les contrats de location, la concession ou la location, le contrat de location est préparatoire à une autre concession. Elle ne peut être accordée pour un terme excédant 3 ans, renouvelable 2 fois pour une durée de 2 ans chacun. Et aussi, nous avons des servitudes foncières. Les servitudes est une charge imposée sur un fonds, une parcelle, pour l'usage ou l'utilité d'une autre parcelle. Et à ce sujet, nous avons des servitudes liées par rapport à la situation du lieu. Nous avons des servitudes voulues par la volonté de la loi et nous avons également les servitudes du fait de l'homme ou conventionnel. Quelle est la procédure pour acquérir une propriété? S'il s'agit d'un terrain vide ou inculte, ça veut dire un terrain non construit, on commence par la demande des terres à adresser au conservateur des titres immobiliers du ressort de la parcelle. Le conservateur va diligenter une enquête pour vérifier la vacance des terres, c'est-à-dire vérifier si ce terrain est dans le domaine privé de l'État, si les terrains ne sont pas concédés à d'autres personnes ou c'est de la compétence ou de ses conservateurs. Après cette enquête, les services techniques des cadastres doivent descendre sur le lieu, notamment pour établir le procès verbal de bornage, pour borner la parcelle et également établir le croquis. Après la descente sur terrain par le service technique, ça veut dire le service des cadastres, le conservateur adressera une lettre au requérant pour lui inviter de payer les frais de l'État à la banque. Après que les frais aient été payés, le conservateur va signer les contrats de location et le requérant, c'est-à-dire le concessionnaire en devenir, le bénéficiaire, va également apposer sa signature dans les contrats de location. Ça, c'est pour les terrains incultes. On obtient d'abord un contrat de location pour une durée de 3 ans et après, les 3 ans permet au requérant, à la personne qui bénéficie, qui jouit de ses fonds, de le mettre en valeur, c'est-à-dire de construire. Et après la construction, si les 3 ans sont finis et que vous avez construit dans la parcelle un immeuble, là, le requérant va encore rentrer auprès du conservateur pour solliciter cette fois-là l'établissement d'un certificat d'enregistrement, c'est-à-dire l'étude de propriété qui constate ce droit et lui-même tel qu'il est construit. Mais si le terrain était occupé par une personne qui vient de le vendre, et les vendeurs et l'acheteur doivent se présenter chez le conservateur afin d'établir un document appelé un acte de cession de bail. C'est à ce niveau que le conservateur établira le nouveau contrat de location au nom du nouvel acquéreur. S'il s'agit d'une parcelle déjà construite en matériaux durables avec un certificat d'enregistrement, c'est-à-dire une parcelle qui a une maison construite en matériaux durables, là, il faut la mutation, c'est-à-dire le nouvel acquéreur doit se présenter avec l'acte de vente, l'original du certificat d'enregistrement de l'ancien propriétaire. Il doit payer les droits proportionnels, c'est-à-dire le 3% du prix de vente à la banque, payer également les frais de mutation et le conservateur de titres immobiliers établira un nouveau certificat d'enregistrement en son nom et annulera l'ancien qui portait le nom de l'ancien propriétaire. S'il s'agit d'un immeuble issu de la succession, le conservateur ne peut établir le certificat d'enregistrement au nom des héritiers que si c'est su à la diligence du liquidateur de la succession ont bénéficié d'une ordonnance d'investiture auprès du président du tribunal de grande instance. S'il s'agit d'une maison de l'État, domaine public, le requérant doit d'abord avoir un arrêté de désaffectation. Avant d'acheter un immeuble ou un terrain, il faut d'abord se rassurer que celui qui vend est le véritable propriétaire sur base des documents qui doivent être vérifiés en amont dans les livres des titres fonciers. S'il s'agit d'une succession, il faut que le liquidataire soit autorisé par tous les héritiers de la succession pour opérer la vente. S'il s'agit d'une personne qui a été mandatée pour vendre la parcelle d'autrui, elle doit avoir entre ses mains une procuration spéciale munie de tous les documents de propriété du mandataire. Notez bien, suivant l'arrêté interministériel numéro 0076 et 010 du 8 mai 2023, les ministres des Affaires foncières et des Finances, tous les frais en matière foncière et immobilières doivent être payées uniquement à la banque.
Quelle est l'autorité compétente en matière foncière?
La base légale de la compétence en matière foncière est l'article 183 de la loi foncière. Mais l'article 14 de l'ordonnance numéro 74-0148 du 10 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 prévoit que les contrats dont question à l'article 183 de la loi foncière sont signés respectivement par 1. Le ministre des Affaires foncières. Il est compétent pour les blocs de terres rurales égaux ou supérieurs à 2000 hectares et pour les blocs de terres urbaines égaux ou supérieurs à 100 hectares ainsi que les blocs de terres rurales supérieurs à 1000 hectares et inférieurs à 2000 hectares et pour les blocs de terres urbaines supérieurs à 5 hectares et inférieurs à 100 hectares. Le ministre des Affaires foncières est également compétent pour les blocs de terres rurales de plus de 200 hectares n'excédant pas 1000 hectares et pour les blocs de terres urbaines de plus de 10 hectares mais n'excédant pas 50 hectares et pour les terrains situés dans les limites de la ville de Kinshasa. Pour les autres terrains, par les gouverneurs de provinces territorialement compétents. Le gouverneur des provinces ou les conservateurs de titres immobiliers territoriaux compétents pour les blocs de terres rurales égaux ou inférieurs à 2 hectares et pour les blocs de terres urbaines égaux ou inférieurs à 10 hectares. Le ministre des Affaires foncières du gouvernement national et les conservateurs de la ville de Kinshasa sont compétents pour les terrains dont la superficie excède des hectares.
Quels documents légaux faut-il pour se considérer propriétaire d'une parcelle?
L'article 219 de la loi foncière dispose que le droit de jouissance d'un fonds n'est légalement établi que par un certificat d'enregistrement. Là, on n'est pas propriétaire d'une parcelle, mais de l'immeuble érigé sur la parcelle, car celle-ci est une propriété exclusive de l'État. En d'autres termes, les individus ou les personnes morales ne sont pas propriétaires des parcelles, des terrains. Les particuliers sont propriétaires de l'immeuble ou de la maison érigée dans la parcelle. Pour une parcelle qui n'est pas mise en valeur, le document légal pour se prétendre être concession en devenir, c'est le contrat de location à jour. C'est-à-dire qu'un contrat non expiré. Dans une certaine mesure, suivant la jurisprudence, on peut se considérer propriétaire sur base de l'acte de vente.
Comment peut-on en être dépossédé?
Lorsqu'on a une propriété sous forme d'une concession perpétuelle, on peut être dépossédé suivant l'article 101 de la loi foncière pour des causes ci-après. Pour expropriation pour cause d'utilité publique, les rachats par l'État lorsque la concession est à titre onéreux, la renonciation expresse écrite du titulaire du droit ou ses ayants cause, la résiliation conventionnelle ou judiciaire, la reprise par l'État aux conditions du contrat, la déchéance successorale, la prescription extinctive, ainsi que par la conversion à un titre de concession ordinaire. Lorsqu'il s'agit d'une concession ordinaire, on peut être dépossédé suivant l'article 145 de la manière suivante. Par échéance du terme, parce qu'on a dit que les concessions ordinaires ont une échéance de 25 ans, de 15 ans, par la reprise par l'État, par la conversion à une concession perpétuelle, par la déchéance successorale et par l'expropriation pour cause d'utilité publique. En ce qui concerne la spoliation des terrains relevant de l'État ou du domaine public, en droit congolais, les biens fonciers immobiliers de l'État sont des deux groupes. Il faut noter que nous avons les biens privés de l'État qui sont dans les commerces, que l'État peut concéder comme analysé sur le sujet, c'est-à-dire qu'à travers les concessions. Et nous avons également les biens publics qui sont hors commerce. Les articles 10, 55 et 210 de la loi foncière précisent que le bien, c'est-à-dire que le terre ou les immeubles de l'État qui sont affectés à un usage ou à un service public sont hors commerce tant qu'ils ne sont pas régulièrement désaffectés. C'est-à-dire que pour bénéficier d'un bien des domaines publics de l'État, il faut que ces biens soient désaffectés. La loi ne prévoit pas expressément les autorités chargées des désaffectations. Nous estimons que conformément à l'article 183 de la loi foncière, tel que modifié par l'article 14 de l'ordonnance loi portant mesures d'exécution de la même loi, accordant la compétence des concessions à certaines autorités, c'est-à-dire le ministre des Affaires foncières et le gouverneur des provinces, nous estimons que ces autorités sont également compétentes pour désaffecter les biens publics de l'État dans la limite de leurs compétences. C'est ainsi que pour éviter la spoliation abusive des terrains de l'État, nous estimons que cette compétence devrait, in legiferendo, dans l'avenir, être expressément réservée au ministre du gouvernement national en charge des affaires foncières. Et c'est après les enquêtes sur l'utilité des biens désaffectés. Aussi,
Edmond Bokolo, de plus en plus, on enregistre des cas de conflits fonciers dans les cours et tribunaux. Comment éradiquer ces fléaux?
pour éradiquer ces fléaux qui gangrènent le pays, c'est-à-dire que dans toutes les provinces, liés à la spoliation des domaines publics de l'État, il est impérieux que les poursuites judiciaires soient déclenchées, envisagées contre toute personne qui spolue les terrains ou les immeubles réservés à l'usage du public ou réservés pour l'usage des services publics de l'État. Et à ce qui concerne les exemples illustratifs, il faut noter ici que presque dans toutes les provinces du pays, on retrouve les cas de spoliation de biens publics de l'État. Et là, l'État a le pouvoir d'actionner, de démarrer tous les moteurs possibles afin de récupérer ses biens, tout en poursuivant en justice les auteurs de ces spoliations. Sauf si les biens du domaine public de l'État ont été acquis conformément à la procédure, conformément à la loi et suivant la compétence dévolue à chacune des autorités telle que visée à l'article 183 de la loi foncière ainsi que l'article 14 de l'ordonnance de 1974 qui porte sur le mesure d'exécution de la même loi foncière.
C'est par ici que nous mettons un point final à ce magazine de promotion de vos droits et devoirs qui a gravité autour du droit de propriété face à la spoliation des terrains publics ou privés. Et nous recevions le magistrat Edmond Elimambokolo. Merci de votre écoute et bonne suite de nos programmes sur la fréquence de la paix.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.